VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Nigeria, la Commission électorale nationale annonce avoir suspendu 205 agents accusés d'avoir accepté des pots de vin pour influencer le résultat du vote lors des élections générales de 2015. Les agents en question font l'objet de poursuites devant la Commission des crimes économiques et financiers qui a enquêté sur ces allégations de fraude, a déclaré mardi soir un communiqué de la Commission, sans préciser si l'enquête portait à la fois sur la présidentielle et les élections de gouverneurs qui ont eu lieu en même temps. Rappelons que la présidentielle de 2015, remportée par le parti APC du président Muhammadu Buhari, a donné lieu à la première victoire de l'opposition dans l'histoire du Nigeria. Le Mali a un nouveau gouvernement depuis hier soir. La nouvelle équipe gouvernementale comprend 35 membres, dont 8 femmes. Dans ce nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, il y a notamment des leaders de partis politiques, des représentants des organisations de la société civile et des femmes leaders. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Parmi les ministres sortants, il y a Maître Muntaka Tall, qui était à la communication et porte-parole du gouvernement. Il est remplacé par le jeune Haruna Modibo Touré, qui devient le ministre de l'économie numérique et de la communication. Le ministre du commerce sera aussi le porte-parole du nouveau gouvernement. Certains teneurs du parti au pouvoir, les RPM, font partie de ceux qui ont quitté le gouvernement. À l'image de Maman Babi de l'emploi et de la formation professionnelle, Ousmane Kone de l'urbanisme, sans oublier Sangare Oumouba de la promotion des femmes. Sa place est désormais occupée par la présidente des organisations et ONG féminines du Mali, CAFO, à la personne de Traoré Oumou Touré. Il y a aussi des revenants, comme l'actuel ambassadeur du Mali aux États-Unis, Tienan Koulibaly, qui devient le ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Quant à Tienan Koulibaly, qui a signé son retour, il hérite du ministère de l'administration territoriale. On peut dire que ce gouvernement qui était tant attendu n'a pas connu beaucoup de changements aux yeux des Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En RDC, le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala a annoncé son intention de financer avec des ressources internes les élections pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. Mais M. Tshibala ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il y ait un appoint qui viendrait des partenaires extérieurs. Le Premier ministre de la RDC a aussi dit hier qu'il considérait ces élections comme la priorité des priorités de son gouvernement. En Afrique du Sud, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce mercredi à Pretoria à l'appel de l'opposition pour exiger à nouveau le départ du président Jacob Zuma, cible de toutes les critiques depuis un remaniement gouvernemental controversé il y a 2 semaines. Pour la plupart, militants de l'Alliance démocratique et des combattants économiques de la liberté, les deux principaux partis hostiles au Congrès national africain au pouvoir, les manifestants ont marché en direction de la présidence. Englué depuis des mois dans une série d'affaires de corruption, le président Zuma est secoué par une nouvelle tempête politique depuis le remaniement ministériel du 30 mars. Il est même menacé d'une motion de défiance au Parlement. Les explications du politologue Achille Mbembe.
Je crois que les partis de l'opposition sont tout à fait conscients du fait que ce vote de défiance n'aboutira pas du tout au renvoi de M. Zuma. Ces partis veulent tout de même marquer fortement la désapprobation du peuple sud-africain ou d'une grande partie du peuple sud-africain face à la gestion de M. Zuma, notamment qui a trait à la corruption, au changement ministériel. Pour le moment, il y a une double démarche. Il y a une démarche parlementaire qui vise à censurer M. Zuma et il y a une démarche propre aux organisations de la société civile qui sont en train de se mobiliser pour faire monter la pression sur l'ANC et l'obliger à se séparer de M. Zuma.
Le politologue Achille Mbembe. En Zambie, le chef de l'opposition à Kainde, Ili Chilema, en détention depuis hier. Les autorités zambiennes l'accusent d'avoir perturbé dimanche le convoi du chef de l'État, John Lindon.
Maître Jacques Mwimbu, son avocat affirme qu'il est accusé de trahison. Dimanche dernier, sur la route de Limulunga, dans l'ouest du pays, la voiture de l'opposant s'était placée à la hauteur de l'escorte du président Edgar Lungu. Dès le lendemain, une centaine de policiers ont encerclé le domicile du leader de l'opposition à Lusaka. Après une nuit de siège, M. Ishilema a été interpellé hier et conduit dans un camp d'entraînement de la police à l'extérieur de la capitale. L'accusation de trahison lui a été signifiée, ce qui n'autorise pas la libération sous caution. L'opposant est passible au minimum de 15 ans de prison et dans le pire des cas, de la peine de mort. Battu pour la 5e fois à l'élection présidentielle en août, Akende Ishilima, surnommé HH, refuse de reconnaître son rival comme chef de l'État.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Cameroun, les partis d'opposition se prononcent sur la crise anglophone. Ils appellent à la mise en œuvre de la décentralisation pour résoudre cette crise. De Yaoundé, les explications de notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Ntap.
En l'espace d'une semaine, les formations politiques majeures de l'opposition au Cameroun ont clairement pris position sur la crise anglophone. La sortie la plus récente étant celle des parlementaires du Social Democratic Front, députés et sénateurs. Jean Tchomelou, le président du groupe parlementaire du SDF au Sénat, résume les solutions proposées par son parti pour décrisper la situation dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun.
La libération de tous ceux qu'on a pu arrêter par rapport à la crise anglophone, l'ouverture d'un dialogue national sur les problèmes de notre pays, la convocation d'une conférence constitutionnelle pour réfléchir de la forme de l'État dont nous voulons pour notre pays et l'instauration du fédéralisme qui est pour nous la meilleure forme de gouvernance dans notre pays.
L'approche du MRC sur la question anglophone a été rendue publique par son président Maurice Kamto. C'était au cours d'une conférence de presse. L'ancien ministre du gouvernement Biya, devenu opposant, a souligné la nécessité d'ouvrir une réconciliation nationale sur la crise anglophone. Explication avec Sosten Médard Lipot, conseiller à la communication du président du MRC.
Ce dialogue national consistait d'abord à se demander pardon. Au-delà du pardon, il fallait maintenant trouver la solution à la crise anglophone, des solutions pérennes.
Anissé et Canet est le président du Manidem, une formation politique qui défend l'idéologie nationaliste basée à Douala. Sur la crise anglophone, le Manidem pose sur la table l'urgence pour le Cameroun de mettre en marche la décentralisation par région.
Et nous avions proposé une décentralisation très poussée avec 4 régions géographiquement homogènes et économiquement viables. Et en soi-disant, justement, l'anglais comme une langue de communication avec l'étranger qui amènerait un développement harmonieux de notre pays.
Sortie opportuniste ou pression de l'opposition camerounaise sur Paul Biya, ces prises d'opposition sont diversement analysées par les politologues camerounais. Simon Roland et Kodom Veng, chercheurs en sciences politiques à la Fondation Paul Angoela à Yaoundé.
Le Social Democratic Front veut se positionner comme étant le seul interlocuteur légitime dans la partie anglophone. Le MRC voudrait se sympathiser de la cause des personnes qui ont été arrêté.
Jusqu'ici, seul le président Paul Biya prend les décisions sur la sortie de crise en zone anglophone. Des décisions qui tardent à ramener la sérénité nécessaire en zone anglophone. Yaoundé, Emmanuel Jouluntap, VOA Afrique.
Crise migratoire, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a dénoncé hier l'existence de véritables marchés d'esclaves en Libye où les migrants sont vendus. Les explications de Florence Kim, porte-parole de l'OIM, au micro d'Anastasie Toudiech.
Des personnes sont désormais considérées comme de véritables marchandises et qu'elles sont vendues en place publique devant tout le monde et sans vergogne. Dès lors que quelqu'un n'a pas payé, par exemple, son passeur, elle va être vendue à quelqu'un qui aura besoin d'un service ou d'une main-d'œuvre. Tous ces faits sont basés sur des témoignages recueillis par des personnes qui ont pu fuir la Libye. On ne peut pas rester pas indifférent, mais bien évidemment inactif face à une telle violation des droits de l'homme. Ça ne fait qu'appuyer notre demande de devoir renforcer les capacités des autorités libyennes sur place, qui ont une véritable volonté de participer à cette urgence migratoire et d'essayer de sauver des milliers de vies aussi. Ça veut dire financièrement, ça veut dire matériellement, ça veut dire avec les ressources nécessaires pour que les autorités libyennes puissent faire leur travail. Si l'on considère que le flux migratoire essentiellement part de la Libye et que la Libye fait partie d'une des causes de cette urgence migratoire actuelle en Méditerranée, la Libye et les autorités libyennes doivent faire partie absolument de la solution.
Florence Kim, porte-parole de l'OIM. Et pour terminer, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov ont entamé ce mercredi à Moscou des pourparlers qui s'annoncent musclés après la guerre des mots entre les deux puissances sur la Syrie. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.